Bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blanc au micro et Maurice Paul du Cala Technique. Aujourd'hui c'est mercredi, ça veut dire que quoi? Je suis là avec le chroniqueur. Je dis pas mon chroniqueur, c'est le chroniqueur de l'émission. Voilà, c'est pas mon chroniqueur, c'est le chroniqueur de plein air et de loisirs. Et en première partie d'émission et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Philippe Lapointe avec son livre Aventure au pays des nouvelles télévisées. Voilà. C'est grand. Il était journaliste, réalisateur et producteur avant d'occuper les postes de directeur et autres. Vous en saurez un peu plus en deuxième partie d'émission. On part tout de suite en musique avec Adele et Chris Stapleton. Easy on me. C'est bien d'elle avec la complicité de Stapleton, Easy on Me. Voilà. Voilà, l'album est sorti le mois passé. Hein. Voilà, c'est. Elle a repris ce texte-là, cette chanson-là avec le grand Chris Stapleton. Quel duo, quelle complicité musicale. Avant de laisser le micro à Stéphane pour nous parler de plein air et autres, de parc. Quel est le parc qui nous a choisi là aujourd'hui? Le parc de la Gatineau. Voilà. Rapidement là, pour ceux qui aiment du cinéma, aujourd'hui à la maison, au musée afro-canadien, bien sûr, qui s'appelle l'Afro-musée afro-canadien, qui est situé là, juste à côté de nous, ici, au 533 rue Ontario-Est. Il y a le SIDICA et le musée afro-canadien qui vous invitent à une soirée à hommage à Ismaël El Saé. Projection du film Maestro Issa, réalisé par France Voltaire, qu'on a reçu ici il y a 2 semaines. Et vente signature du livre « Et Haïti découvrit le jazz, l'histoire de Issa El Saïd » par Matt Lundal. Voilà, parce que c'était un grand musicien de jazz haïtien qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années. Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil comme ça. Là maintenant, Stéphane me regarde avec un sourire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Fulgence, ça va bien?
Ça va bien, merci. Et toi?
Très bien, merci.
Alors, tu nous as choisi aujourd'hui le parc de la Gatineau.
Mais oui.
Voilà.
On a au Canada la Commission de la capitale nationale, la CCN, qui est une société d'État fédérale créée par le Parlement canadien en 1959. Mais il y a eu d'autres commissions avant 59. Elle. Alors, il y avait quand même... Il y a eu plusieurs commissions avant elle, mais celle-là existe depuis 1959.
Ah oui.
Elle gère comme la patinoire du canal Rideau, les résidences officielles de la capitale, les édifices patrimoniaux. Elle gère toutes ces choses-là.
Oui.
Et elle gère, entre autres, le parc de la Gatineau. C'est une partenaire créative qui est engagée envers l'excellence en aménagement et en conservation. Mm-hmm. Parce que le parc de la Gatineau, c'est quand même un parc de 361 km².
Et ça 361 km². Ouais.
Et c'est plein de lacs, de ruisseaux, de rivières. Ça abrite vraiment une biodiversité riche et unique. C'est vraiment magnifique comme endroit. C'était tellement grand qu'il va être, effectivement, il y a beaucoup de stationnements, il y a beaucoup d'accès.
Oui.
Mais je dirais que l'accès principal, quand on veut faire de la randonnée à pédestre et tout, c'est le centre des visiteurs au 33 chemin Scott à Chelsea, au Québec.
Okay.
On est vraiment collé sur l'Ontario,
oui.
Mais c'est à HTLC qu'on a le centre des visiteurs. Et de là, on a accès à vraiment plusieurs sentiers. Comment se rendre? Bien, c'est sûr que c'est au cœur de la région de Gatineau-Ottawa, puis à peine à 2 heures de Montréal.
Ça se fait bien.
Ça se fait très bien. Bon, ça se fait vraiment très bien.
C'est comme si on allait à Québec, quoi.
Oui, c'est ça.
2 heures de route, on va dire.
Ouais. Je dirais que même à Montréal, quand on veut aller faire des parcs, à moins de vraiment juste être en Montérégie, dès qu'on va dans les Laurentides, dès qu'on va un peu plus en Estrie, 2 heures, c'est comme à peu près le temps que ça va prendre pour se rendre dans ces endroits-là.
C'est ça. En transport, avec le trafic, ça c'est clair.
Oui. En transport en commun, on parle de, il y a un service d'autobus à partir de Gatineau et Ottawa pour le secteur sud du parc. Mm-hmm. C'est le secteur où est-ce qu'il y a les randonnées pédestres et tout. Le week-end, il y a aussi le service Transcolline qui assure le transport vers le secteur nord-est, ça veut dire un peu plus loin dans le parc, à partir
c'est
de Gatineau.
C'est gratuit, ça?
Non, il y a des frais, là. Écoutez... Mais c'est ça.
C'est juste, je ne fais que demander.
Non, mais c'est ça, mais ils ont quand même des frais à couvrir, alors c'est ça.
Je ne fais que demander, Stéphane. Voilà, OK.
Puis il y a un site web, c'est ccn-ncc, parce que c'est le CCN en anglais, .gc.ca, /endroit au pluriel, parc de la Gatineau, avec des traits d'union entre chaque mot.
Oui.
Alors, c'est ça, le site web. Pourquoi est-ce qu'on irait là? C'est vraiment une belle diversité de sentiers puis d'activités l'hiver. Parce que là, on s'en vient vers l'hiver. C'est sûr que l'été, il y a des sentiers d'été aussi très, très bien. Mais comme pour les prochains mois, on va être avec les sentiers d'hiver, bien, on va surtout parler d'eux.
Oui.
On parle de 4 sentiers pédestres qui
varient. Parce que je sais qu'il y a à peu près 200 km de sentiers en été, hein.
Mais c'est,
voilà, on va parler beaucoup plus de sentiers de pour le ski de fond.
Oui, mais c'est ça. Présentement, c'est ça. Les 200 km de sentiers, c'est pour le ski de fond.
Oui.
Vraiment grand. Il y a quand même 4 sentiers pédestres qui varient de 1,3 à 4,5 km.
Oui.
Facile à intermédiaire, quand même. Il y a 4 sentiers de raquettes. Mais quand il n'y a pas de neige, on les fait aussi à pied, là, qui varient de 3,3 à 8,3 km. Facile à difficile. Moi, j'ai fait des sentiers de raquettes quand on est allé ce week-end. Alors, c'était quand même très, très bien, puis c'était vraiment intéressant.
Il y avait déjà
là.
De la neige?
Non, pas encore. Alors, on l'a fait à pied.
Ah non, d'accord.
C'est ça. Alors, 2 sentiers sont disponibles aussi pour le vélo d'hiver. On parle de 8,2 km, qui est facile, puis 7,6, qui est moins long, mais plus difficile. Puis c'est comme on disait, plus de 200 km de sentiers pour le ski de fond.
Il y a
beaucoup de lacs et ruisseaux. Il y a le fameux lac Meech. Ceux qui suivaient un peu la politique avant, il y avait eu le fameux accord du lac Meech. Alors, c'était le ou à côté de ce lac
ouais.
qui est là. Il y a vraiment une belle diversité de la faune.
Moi, je vais aller pour ça même.
Ouais.
La faune.
Barrage de castors. On a vu un beau gros barrage de castors à un moment donné. On a croisé un petit cerf sur la route. Là. Il a traversé devant de la
Est-ce
voiture.
Est-ce que tu as vu des castors?
J'ai pas vu les castors. J'ai vu leur travail.
Tu te rappelles la dernière fois quand ouais. on parlait du Mont-Royal?
Ouais.
J'ai dit, je connais le lac des castors, mais je n'en ai jamais vu. J'aimerais bien en avoir au moins une fois de ma vie.
Mais à la
je vis hein? au Québec, mais je n'en connais pas. Je vois le travail, les arbres qu'ils ouais. coupent, les branches, tout ça. Uh-huh. Mais je n'ai jamais vu un castor.
Ouais.
J'ai vu des photos de castors. Ouais. Mais en pleine nature, comme ça, je n'en ai jamais vu.
Voilà. Une fois, je pensais que j'avais vu un castor, puis quand j'ai vu la queue, c'était un remusqué.
Alors d'accord. Ah, il se ressemble?
Mais je trouve, entre dans l'eau,
oui.
il se promène dans l'eau, il se ressemble un peu, mais il n'y a pas la queue plate.
Ah,
c'est,
bon,
ça. C'est comme ça que
okay.
j'ai pu savoir.
OK,
c'est
OK, OK.
Le parc compte sur différents secteurs, plusieurs stationnements et points d'entrée à cause de la vaste étendue.
Mm-hmm.
Il y a aussi le domaine Mackenzie King, qui a appartenu à l'ancien premier ministre du même nom pendant près de 50 ans. Et puis maintenant, ben, c'est, okay. il y a des sentiers, il y a des beaux jardins l'été, et il y a aussi les ruines, accessibles en tout temps. Alors, il y a comme des portails, c'est vraiment très, très beau.
OK.
Alors, c'est quand même une belle place à aller. On peut aussi camper, même l'hiver, que ce soit dans une tente ou dans un prêt à camper. Alors, c'est comme 16 $ par personne par nuitée pour si on amène notre tente, ou c'est à partir de 105 $ par nuitée pour un prêt à camper.
Mais, oui, mais comment ils vont se réchauffer sur une tente en hiver?
Ah, il y en a qui font du camping d'hiver, ils sont vraiment équipés pour ça. Puis okay. là, il y a yurte aussi, on peut chauffer.
T'as vu
ça.
Mon visage, là?
Ouais.
Ah bon, bah, allez, camper, on y va. OK, d'accord, on y va.
Ouais. Les heures d'ouverture, on parle de 9 h à 17 h actuellement. C'est sûr que quand on va retourner au printemps et tout, ça va devenir plus tard. Mais présentement, on ne veut pas de toute façon être là en pleine noirceur. Là.
Oui.
C'est pas éclairé.
Non, jusqu'à 17 h. À 17 h, il fait déjà noir, mm-hmm. d'ailleurs.
Puis je sais qu'autour des campings, il y a des gens qui ont rencontré des ours. Alors, c'est ça. C'est toujours...
Attention. Ah, tu...
Quand je parlais de biodiversité, là...
De la faune.
Oui.
J'adore. Mais non, mais je savais pas que tu allais sortir le mot ours. Parce que là, vraiment, là, tu me dis qu'il y a des ours là-bas. Là,
moi, je... Tu peux aussi avoir des grands félins, pendant, parfois. Oui.
Ah bon? Comme quoi, les lions qui
avaient... J'ai déjà eu un cougar qui avait été vu dans ce coin-là.
Un cougar?
Ouais.
Ah non, non, si je vais rester loin de ces... J'ai la phobie des ours et autres quand je ouais. parle ours, mais voilà, non, non, non.
T'amènes ta petite clochette, là, puis...
Ah bon, d'accord. allez, je te laisse continuer.
Mais les stationnements l'été sont gratuits. Sauf pour certains stationnements pendant où est-ce qu'en quand il y a les activités
en été, les stationnements sont gratuits.
Non, mais les stationnements sont gratuits l'été, sauf pour certains stationnements. C'est pour
d'accord,
ça.
D'accord.
Tout ce qui est plage, rampe de mise à l'eau, puis il y a le domaine Mackenzie King aussi.
Oui, OK.
Les deux autres, ils ont différents tarifs.
Est-ce qu'on peut se baigner là-bas dans ces lacs-là en été? On a le droit de transformer son maillot de bain et puis plonger.
Oui, il y a des plages.
OK, ouais, d'accord.
C'est ça. Okay. Tous les stationnements sont gratuits l'hiver, par contre. C'est pour ça que là, on est correct. Il n'y a aucun frais.
Mm-hmm.
L'accès aux sentiers de randonnée pédestre sont gratuits.
OK.
L'accès pour les sentiers de ski, par exemple, est à 20 $ pour les adultes, 15 $ pour les adolescents, étudiants et aînés, 45 $ pour les familles. On parle de 2 adultes puis 3 ados max. Les enfants, c'est sûr que ça, c'est gratuit.
Une famille de 5, quoi.
Oui, mais 5, mais dans le fond, 3 ados. S'il y a des enfants,
oui.
c'est pas la même chose. Accès pour les sentiers de raquettes, c'est 10 $ pour les adultes et 7 $ pour les adolescents, étudiants, puis aînés, 24 $ pour les familles. Puis c'est possibilité d'acheter un laissez-passer saisonnier. Il y a une prévente jusqu'au 30 novembre, justement. C'est un rabais d'à peu près 15% sur le. Puis c'est vraiment beaucoup moins cher.
Oui.
Et il y a un rabais à peu près de 15% sur le tarif pour les membres d'organismes à but non lucratif d'au moins 25 personnes.
OK.
Alors, ça veut dire que dès que quelqu'un travaille pour un organisme comme ça, bien, il est éligible. Puis si on a une carte de bibliothèque
dans la région... Il va falloir qu'on se remonte un organisme, toi et moi, là, pour pouvoir fréquenter ces gens du parc. Acheter, allez, ouais.
Mais on peut obtenir aussi, si on a une carte de membre des bibliothèques de la région, on peut avoir un laissez-passer quotidien gratuit aussi.
Oh zut, ça y est, le carte de bibliothèque de Montréal, ça passe pas.
Non, c'est je trop pense loin. Pas. C'est une des... grande. C'est pas la région, elle est pas assez grande pour aussi grande que
d'accord,
ça.
D'accord, d'accord.
Mais c'est. Et les chiens en laisse sont permis sur plusieurs sentiers. Il y a certains endroits qui peuvent pas. Encore là, on parle toujours. On dit toujours que les chiens guides, eux.
On les laisse rentrer partout. Là, voilà.
Mais les chiens en laisse sont acceptés à beaucoup, beaucoup d'endroits.
Oui.
Honnêtement, on a même vu dans les endroits où ils n'étaient pas supposés être là, en fin de semaine, mais c'est ça.
Voilà, et pour terminer?
Alors, c'est un parc vaste et magnifique pour tous les goûts, juste à côté de la capitale et pas si loin de Montréal. C'est le deuxième parc national le plus visité au Canada après Banff.
Oui, avec sa grandeur, là, c'est tellement grand qu'en fin de compte, les gens... Oui. Tu ne trouveras jamais en collision là-bas. Là. Non. Il y a de la place pour tout le monde.
Je suis allé passer une journée avec ma copine dans le parc de Gatineau. Puis on a fait une minime fraction de ce qu'il y a à découvrir.
De ce qu'il y a à découvrir. Ouais. Ah, je comprends c'est pourquoi c'est le parc le plus visité au Canada. Parce que tu es tellement grand que tu as l'impression que tu es seul dans ton petit coin. Alors qu'il y a du monde de l'autre côté là-bas. Il y a de la place pour tout le monde.
Les
quoi.
Stationnements étaient pleins. Et pourtant, on ne rencontrait pas tant de gens que ça.
C'est ça, mais c'est tellement grand, comme tu le dis.
C'est ça. On pourrait rester là plusieurs journées, surtout si on va au camping. On peut rester là une semaine, puis on va pouvoir... On fera pas deux fois les mêmes sentiers.
OK. Ouais. Merci beaucoup, Stéphane.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine.
Oui.
Allez, ciao.
Looking ya, she kill the goats. Looking ya, she spend money. Something must to kill a man. Sour, sour, sour day. Looking ya, she miss the flight. Agent man rebook the flight. I must do something tonight. Sour, sour, sour day. Cause her body sweet like chocolate. Make me done this alive. Let's go somewhere private and finish it in the way we start. Looking yash, Jay looking yash, no matter the size of all yash matter. I don't plan on before, I just see her before. I won't give up my all, and she no go regret her at all.
I beg, no matter the kind yash where you get, big, small, large, extra large.
Looking yah, she signed the check. Check your phone for bank alert. I must do something tonight. Sour, sour, sour day. When looking yah, she begin to dance. Pakoro back and yoka white. I must do something tonight. Sour, sour, sour day. Cause her body sweet like chocolate. Make me done this alive. Let's go somewhere private and finish it in the way we start. Looking yash, Jay looking yash, no matter the size of all yash matter. I don't plan on before, I just see her before. I won't give up my all, and she no go regret her at all. Looking yash, Jay looking yash, no matter the size of all yash na yash.
Flavor, Looking Nash. Voilà, je reviens sur le musée afro-canadien, là, l'afro-musée, qui est situé au 533 rue Ontario Est. Donc, cette soirée de cinéma, là, aujourd'hui, c'est de 18h à 20h. Hein. Et puis, samedi, il y a un humoriste qui vient de Paris, se nomme Patson. Pour ceux qui connaissent un peu les humoristes de la communauté noire à Paris, il sera là-bas le samedi, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Non, pas le samedi, c'est le vendredi, là, le 26. Demain, c'est le 25. Le vendredi, c'est le 26 à 21h. Voilà, toujours au musée afro-canadien. 533 rue Ontario Est. Patson. Allez-y, tapez sur YouTube. Là, vous allez voir ses sketchs là-bas. Et c'est bien drôle, ce garçon. Voilà. Là, je vais parler un peu du, rapidement, là, je vais faire un clin d'œil au Salon du Livre de Montréal, qui a commencé déjà, d'ailleurs, et puis, faut pas... mais en salle, ça commence demain. Mais depuis un moment, là, les gens sont déjà... Le salon est déjà sur... en ligne, comment dirais-je, depuis le 13 novembre, jusqu'au 28. Et puis, dans la ville aussi, ça dit dans certaines bibliothèques, bien sûr, depuis le 13 novembre jusqu'au 28. Mais, physiquement, là, comme on le dit, là, au vrai salon, là, où les gens le standent, tout ça, c'est au Palais des Congrès, à partir de 2 mai jusqu'au 28 novembre. Voilà, donc les stands sont déjà là-bas. Mais tout ce qui se passe en ligne, et puis dans les bibliothèques, ou bien dans les centres culturels, tout ça, c'est depuis le 13. Hein. Ça, c'est ceux qui ont... Allez-y sur le site, là-bas. Salon du Livre de Montréal. En un seul mot, Salon du Livre de Montréal, sans accent, sur le « et » Montréal. .com, vous allez voir toute la programmation dans la ville, bien sûr, puis en ligne depuis le 13 jusqu'au 28 aussi, et puis au Palais des Congrès du 25 au 28 novembre 2021, c'est-à-dire depuis à partir de demain, quoi. Le Palais des Congrès va être rempli de monde, comme dans une fourmilière d'ailleurs, ça va être rempli, bon, et il ne faut pas oublier, et je pense bien qu'il ne faut pas oublier son masque à la maison. Peu importe le nombre d'heures qu'on va passer là-bas, il faut avoir son petit masque et, ou bien son couvre-visage comme certains l'appellent. Voilà, je pense bien que voilà, le message est lancé. Si vous avez le temps en fin de semaine, ou bien à partir de demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, allez-y faire un petit crochet là-bas pour découvrir les nouveautés littéraires. Je veux de temps en temps, c'est ce qui fait que hier, j'avais lu d'ailleurs un passage du livre de Nicolas Hulot, bon, aujourd'hui, bon, le temps ne me le permet pas de le faire. On va rester un peu dans le cadre du Salon du Livre, comme ça, on reçoit deuxième partie d'émission Philippe Lapointe qui va parler des aventures au pays des nouvelles télévisées. Voilà, dans les coulisses de l'information télé. Ça, c'est très, très, très important. Moi, j'adore, c'est tout un régal, quoi. J'ai découvert des choses dans ce livre-là que je ne savais pas du tout. Je me suis dit, waouh, quel bon livre! Alors, je vais faire un petit clin d'œil au Théâtre Saint-Denis, au Quartier Latin. Voilà. Il sera muni de... Ils vont le transformer en studio cabaret. Voilà. Qui sera muni de... Il y aura 450 à 700 places, soit moins que les 933 sièges qui sont de l'ancienne petite salle, là, communément appelée Saint-Denis 2. Donc, comme dit... c'est la compagnie. Hein. Comment s'appelle cette compagnie qui s'occupe de ça maintenant là? Je me dis quelquefois... Quand les gens prennent des idées comme ça, ce genre de décision comme ça, c'est qu'ils ont été vraiment bien conseillés. Il n'y a personne qui va leur dire pourquoi est-ce que vous faites ça maintenant, pourquoi est-ce que vous voulez rendre le Théâtre Saint-Denis en studio cabaret. C'est le choix. C'est le choix. Ouais, c'est le choix. Donc, ils vont se refaire une nouvelle beauté, Miss Gourou, sur la formule cabaret. Donc, l'actuelle deuxième salle sera convertie en joint en bar spectacle multifonctionnel. On voit des écrans partout. Voilà. Les gens, ils veulent retourner comme si c'était en 1916. Voilà. 100 ans en arrière. Quelque chose comme ça de ce genre. C'est ce qui... Je vais revenir là-dessus d'ailleurs. Si je pourrais avoir dans les semaines à venir, quelqu'un pour venir nous parler de ça ici, ce serait vraiment génial, quoi. Voilà. C'est... Qu'est-ce que vous voulez? C'est une transformation, quoi. On évolue. Voilà. On va en musique? Vous terminez cette première partie de l'émission?
He don't call no
Restez à l'écoute. On vous revient après la petite pause publicitaire avec notre invité Philippe Lapointe qui va nous parler de son livre Les aventures au pays des nouvelles télévisées aux éditions Livre Expression. Voilà, à tout de suite.
À 17-18 avec Fulgence Blas.
J'espère de pas tomber en amour avec toi. L'amour, ça me fait les blouses à chaque fois. Au rythme de la musique qui joue, je sens ton cœur qui bat. Je buvais ma bière tranquille, mais là, je t'entends m'appeler tout bas. J'espère de pas tomber en amour avec toi. Il y a du monde partout. Si je t'offre une chaise, j'ai peur d'avoir l'air fou. Si tu t'assois avec ce gars-là, rends-y son air de bœuf. D'ici ce que la soirée finisse, je serai peut-être moins nerveux. J'espère de pas tomber en amour avec toi. C'est drôle l'effet que ça fait quand t'es un gars. Les trucs de phéromones pis de mâle alpha. Je me retourne juste pour te regarder dans la trolley urbaine. Je voudrais tellement aller te parler, mais on se connaît à peine. J'espère de pas tomber en amour avec toi. Je vois bien que t'es toute seule, tout autant que moi. Il se fait tard, tu voudrais peut-être qu'on se revoie. Je me retourne juste pour te regarder, tu me regardes aussi. Le gars assis à côté de toi,
s'en va, puis tu rougis. J'espère que tu t'en vas en amour avec moi. C'est l'heure de la fermeture, on baisse le son. Pour mon lascol, un whisky sans glaçon. Je me retourne juste pour te regarder. T'es pas là, t'es parti. Je cherche partout, je bois un coup. C'est l'histoire de ma vie. Puis je pense que je suis tombé en amour avec toi. Je pense que je suis tombé en amour avec toi.
Fred Pellerin, j'espère de pas tomber en amour avec toi. Notre invité est déjà avec nous, Philippe Lapointe. Figure connue et respectée du monde des médias, Philippe Lapointe est le seul à avoir dirigé les salles de nouvelles des deux principales chaînes de télévision québécoises. TVA et Radio-Canada. Aventure au pays des nouvelles télévisées, oui, nous permet de revivre de l'intérieur, des rencontres et des collaborations avec de jeunes journalistes plus grands que nature, de même que des événements qui se sont déroulés dans des circonstances hors du commun. Était journaliste, réalisateur et producteur avant d'occuper les postes de directeur des nouvelles télévisées à Radio-Canada et vice-président. Information puis vice-président principal du réseau TVA, il a aussi œuvré dans la haute direction de plusieurs groupes de médias, tels que Production Piscom, TC Media et Cogeco. Bonjour Philippe Lapointe.
Hey, bonjour monsieur.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci pour la belle introduction. Merci pour la chanson de Fred Pellerin, c'est si beau.
Oui, c'est beau, c'est tellement sensuel. C'est une belle chanson, une de mes... c'est nouveau, hein? Ça fait partie de son nouvel album.
Oui, c'est tellement beau.
Alors, ce livre que vous venez de nous gratifier avec moi, j'appelle ça, c'est un régal. Hein? Je l'ai presque fini, c'est un régal. Vous m'apprenez beaucoup de choses là-dedans, je vous le dis. Et je ne sais pas, comment est-ce que l'idée vous est venue de sortir un livre comme ça et puis parler de vous et de vos collègues, les gens que vous avez côtoyés, les gens que vous avez dirigés, ou bien les gens qui étaient là avant vous, avec qui vous avez travaillé. Comment l'idée vous est venue?
Ben merci d'abord d'avoir de l'invitation. Ensuite, merci aussi, je suis content que vous ayez aimé ça. Ça me fait vraiment plaisir, sincèrement. Ça me touche toujours quand les gens prennent le temps de lire.
Oui.
Que j'ai écrit, j'ai passé un an de ma vie à écrire ce livre-là. Je pensais que ça me prendrait 3 mois, bien naïvement, ça m'a pris un an.
Un an, vous avez répondu à une prochaine question.
Oui, c'est vraiment beaucoup de travail.
Ça a été le temps de la pandémie ou bien?
Oui, oui et non. J'ai profité de la pause de la pandémie pour faire le livre. Ça a été une belle opportunité. Mais,
oui.
mais j'ai écrit le livre, en fait, pour deux raisons principalement. D'abord, je trouvais que c'était une histoire que je trouvais intéressante à raconter. Puis je trouvais que c'était une histoire importante aussi. En fait, c'est un point de vue qui n'est pas souvent raconté. C'est-à-dire le point de vue j'ai eu l'occasion assez unique là, de diriger les deux grandes salles de nouvelles au francophone au Canada, puis en fait, je suis le seul à avoir fait ça, puis vous l'avez dit, puis c'est vraiment un concours de circonstances dont je suis très content, mais ça a été une expérience formidable. Alors moi, je voulais, dans le fond, montrer comment ça se passe dans les coulisses de l'information télévisée. Je trouve ça intéressant, évidemment, j'ai un biais, moi je trouve ça passionnant, la vérité, c'est que j'ai pratiqué ce métier-là que je trouve le plus beau métier du monde. J'ai adoré faire ce métier-là. Mm-hmm. Et puis, je voulais communiquer un peu de cette passion, de ce plaisir-là pour encourager des gens qui ont le goût d'être journalistes ou de travailler en télévision, de plonger là-dedans avec toute leur énergie et leur passion. L'autre chose, c'est que je crois que c'est une histoire importante. Je trouve qu'à l'époque, aujourd'hui, des fake news et des réseaux sociaux,
oui.
je, trouvais ça intéressant de montrer comment ça se passe dans une salle de nouvelles qui travaille sérieusement. Tu sais, comment, à travers des politiques d'information avec un code d'éthique, avec une culture d'informer aussi qui fait qu'on recherche la vérité et qu'on essaie sincèrement de travailler pour le bien commun, de faire le mieux possible. Là, je raconte ça, j'ai l'air idéaliste, mais je pense qu'il faut l'être un peu idéaliste dans la vie, là, si on il faut rêver, mais il faut aussi être pratique. Dans,
oui,
le monde pratique,
oui.
Dans le monde pratique, ben c'est pas c'est jamais parfait. Alors, je voulais montrer ça aussi. C'est des humains, puis avec des défauts, puis des qualités, puis des enjeux personnels, puis des ambitions, puis des faiblesses, mais qui, au total, dans un cadre journalistique, travaille vraiment pour le bien commun. Puis c'est quelque chose qui n'est pas jamais des vérités absolues. Ce qu'on cherche souvent, malheureusement, et ça n'existe pas, à moins d'être croyant. Ça, c'est autre chose, c'est un autre rayon. Mais voilà, c'est un peu ce que je voulais montrer. Puis dans la vraie vie, comment ça s'incarnait.
Oui.
Que ce soit très réaliste là, comme histoire.
Est-ce que vous avez toujours rêvé, en tant que jeune garçon, de faire de la télé, des nouvelles?
Non, pas du tout. En fait, étrangement, chez nous, on regardait pas la télévision. Mes parents étaient pas il y avait peut-être un peu de télévision. Puis ensuite, je pensais vraiment travailler dans la presse écrite. Mais c'est souvent la vie qui nous amène à des endroits qu'on n'a pas prévus, là.
Oui.
Pour chacun d'entre nous. De façon
c'est ça.
Est-ce que vous imaginez que vous seriez animateur à Visez-Bois? Peut-être pas.
Non. C'est les circonstances de la vie.
Ben, c'est ça. Alors, tu sais, des fois, c'est la vie qui nous amène là. Non, moi, j'ai travaillé pour un journal qui était un assez mauvais journal, en fait, qui s'appelait Dimanche de Mera, mais avec du bon monde quand même là-dedans. Puis, quand le journal a fermé, parce qu'il fonctionnait pas bien, c'était pas un très bon journal, le patron qui m'aimait bien m'a dit, écoute, je vais trouver du travail. Puis il m'a dit, ben, regarde, t'as quelque chose qui t'attend à Télémétropole, le Canal 10, puis ils vont te prendre pour un essai de 3 mois, sous ma recommandation, parce que je pense qu'il connaissait bien le patron là-bas qui m'a reçu, puis qui m'a engagé pour un contrat de 3 mois, puis j'ai travaillé là beaucoup d'années, finalement.
Oui, oui. Mais pourquoi est-ce que les gens, au début, vous avez commencé à Télémétropole en décembre du 1980, pourquoi est-ce que les gens ne considéraient pas cette Télémétropole? Les autres se moquaient de vous. Pourquoi?
Ben, c'est parce que c'était pas très bon ce qu'on faisait. La vérité, là, il y avait des très bons journalistes dans le groupe. Il y avait plusieurs jeunes, là, puis, dont moi, je pense, là, tu sais, qui voulaient faire mieux puis qui travaillaient fort, mais c'était une ancienne direction. C'était une station à l'époque qui ne croyait pas dans l'information. Tu sais, qui, pour eux, c'était un mal nécessaire. Le CRTC, l'organisme réglementaire qui réglemente la télévision, là, leur imposait de faire des nouvelles, mais ça les embêtait un peu. Tu sais, eux, c'était vraiment le royaume des variétés. Puis les gens plus vieux se rappellent des Tannant, de Réal Juguerre, de Cris Basil, ça avant mon temps à moi, là, mais Saint-Forien et tout. C'était une grande époque des variétés. Tu sais, où il y avait un animateur extraordinaire comme Michel Jasmin qui travaillait là, c'était les débuts de Céline Dion et ainsi de suite. Bon, c'était vraiment Claude Blanchard. Bon, tu sais, on peut pas les nommer, on l'aimait beaucoup, là.
Oui.
Mais c'était l'époque vraiment des grandes variétés de Télémétropole. Puis les nouvelles là-dedans, c'était un peu, c'était pas très considéré.
Oh, ouais,
alors,
ouais,
donc,
ouais.
C'était pas très bon.
Donc, il y avait la mauvaise réputation. On vient de là, quoi.
Oui, c'est ça.
Okay.
C'est assez mérité.
C'est ça. On va faire une petite pause musicale et puis on vous revient.
Merci.
J'ai écrit ton nom plus le mien dans le croche des capucins en couleur, pas loin de la grève. T'sais, je suis jaloux de ton rouge à lèvres. Quand tu passes m'embrasser devant tous les gars de la chope, juste le goût d'aller m'en vanter. Heureux comme un chien dans une boîte de pick-up. We'll
évident. Je sais tout ce que j'aurais mis dedans. Demande-moi, demande-moi. Deux, trois, quatre jours de fête. Une coupe de congé de tempête. Demande-moi. Des chemins de rang, des feux de joie. Du bon temps, des passes droits. Ton sourire, puis des bonnes tours. Du gâteau, puis des ballons. Non, rien de tout ce qui taillit. Juste plus de poésie. Demande-moi. Du vouloir, de la beauté. Des histoires, puis les clés de mon char. Et à la place de l'hymne national, de règne de carnaval. Est-ce que tu voudrais me marier? Tu dis qu'on pourrait faire, qu'on pourrait faire mieux. Tu dis qu'on pourrait faire, qu'on pourrait faire mieux.
Patrice Michaud du 977, un des chanteurs québécois que j'apprécie beaucoup. Voilà, notre invité est toujours avec nous pour parler de son livre. Philippe Lapointe, des aventures, les aventures au pays des nouvelles télévisées. Voilà, et moi quand je parcourais, je lisais ce livre-là, j'ai dit waouh, il me fait découvrir des choses. Parlez-nous un peu de l'âge d'or de l'information télévisée.
Ben en fait, c'est un peu les années dans lesquelles j'ai eu la chance de diriger des salles de nouvelles, c'était. J'appelle ça l'âge d'or de l'information télévisée parce que c'était l'époque où les gens s'informaient d'abord à la télévision, évidemment, c'était avant Internet.
Oui.
Et puis c'était vraiment la source principale d'information. Tu sais, le téléjournal de l'Honneur de Rome, on disait en blague, c'est la grand-messe. Tu sais, les gens, on attendait à 10 heures pour avoir les nouvelles, pour écouter l'Honneur de Rome.
C'est ça.
Qui était l'officiant de la grand-messe du téléjournal.
Oui.
Et puis, tu sais, j'ai été...
Que vous nommez dans le livre Le Lion.
Pour moi, ça a été extraordinaire parce que j'arrivais, quand je suis arrivé à Radio-Canada, mais j'étais patron de l'information, j'étais vice-président à TVA, et Pierre Bruno, j'avais comme grandi avec lui, si on veut, en vieux Canal 10, on avait grandi ensemble, Jacques Moisan, c'était des collègues, puis c'est des gens... Pierre Bruno, c'est un immense, un des grands présentateurs de nouvelles, chef d'antenne du Québec. Là. Mais Bernard de Rome, je le connaissais peu, mais moi, quand j'étais au Cégep, Bernard de Rome, c'était mon idole, là, quand j'étais au Cégep et à l'université.
Oui.
Et là, je débarquais à Radio-Canada pour être techniquement, théoriquement, le patron de Bernard de Rome.
Là, pourquoi vous le surnommez le roi lion dans le livre?
Ben oui, parce que son influence était, c'est un peu inimaginable aujourd'hui l'influence de Bernard de Rome. Tous les autres animateurs voulaient être comme Bernard de Rome.
Ah, ok, alors, je comprends.
Ce qui est un peu une erreur, si vous êtes animateur vous-même, là, vous ne voulez pas être quelqu'un d'autre. Là, un bon animateur, c'est quelqu'un qui est la meilleure version de lui-même. Là.
C'est vrai.
Alors moi, j'ai débarqué à Radio-Canada, il y avait Bernard de Rome qui était là, il y avait Jean-François Lépine, Denise Bombardier, Pierre Nadeau, Simon Durivage, c'était tous des gens que j'admirais.
Oui.
Et puis ça a été une expérience formidable. Puis, tu sais, je disais, on est le patron, ces gens-là, on les accompagne. Hein. C'est comme quelqu'un qui est coach au hockey. Quand on coach Wayne Gretzky, ben on peut bien être on est le coach, mais les gens ont quand même besoin d'encadrement. Puis le patron fait son job de patron. Puis,
oui.
C'était effectivement des années qu'on peut vraiment qualifier d'âge d'or.
D'âge d'or. Et quand vous pensez aujourd'hui votre parcours, même venant de Télémétropole et puis aller faire la navette entre Radio-Canada et TVA, et puis à des gros postes d'ailleurs, quand vous voyez ce parcours-là, qu'est-ce que vous vous dites?
Ben, moi, je me dis que j'ai été chanceux. J'ai travaillé fort, évidemment. Là, c'est des jobs où on travaille énormément. C'est des jobs de fou. Mais c'est des environnements passionnants. Je considère que j'étais l'homme le plus chanceux du monde dans le sens que j'ai toujours fait ce que j'aimais dans des environnements extraordinaires avec des gens exceptionnels. Hein. Je ne sais pas ce qu'on peut demander de plus.
Oui.
Puis il y a des jours où je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais une période où j'étais réalisateur à la télévision, puis je me rappelle, j'allais travailler, je me disais, puis en plus, il me paye pour ça, moi, j'en revenais pas. Il m'avait dit, on n'a plus d'argent, on ne payera pas, j'aurais été quand même, tu sais. Alors, puis j'étais le genre d'employé qui allait voir le patron, puis il disait, je veux en faire plus, paye-moi pas plus, je veux juste en faire plus, j'aime trop ça, tu sais, alors.
OK.
Moi, je trouvais que c'était un métier formidable, mais c'est drôle, c'est ce que je dis. J'ai essayé de dire ça à mes enfants, mais je le dis aussi à beaucoup de gens plus jeunes, tu sais.
Oui.
J'ai dit, quand tu embarques dans ton affaire, fais quelque chose que tu aimes, fais-le avec passion. C'est...
Oui.
Moi, je pense que la recette du bonheur au travail, c'est de travailler fort puis d'être passionné, tu sais.
C'est ça. C'est ça.
La récompense vient. C'est ce que je pense moi, mais bon, chacun peut penser.
Oui, chacun peut penser ce qu'il veut, oui, ça c'est clair.
Mais dans le livre, je parle beaucoup de toutes ces vedettes-là, ces stars de l'information, parce que c'est des gens que tout le monde connaît. Moi, je me suis bien entendu avec tout ce monde-là, puis c'était formidable, mais je trouve ça... Quand on est curieux, beaucoup de gens m'ont toujours demandé comment ça se passe pour vrai. Les gens sont, c'est quand même, je trouve que c'est intéressant de voir comment ça se raconte. Moi, j'écris ça vraiment pour le grand public.
Oui.
Je voulais pas que ce soit un livre universitaire, je voulais pas que ce soit ennuyant. Je voulais que ce soit intéressant à lire. J'ai beaucoup recommencé.
C'est pas moi qui vais dire le contraire. Il est vraiment. C'est un régal, je le dis dès le début d'ailleurs. Pierre Bruno, le prince du direct, comme vous le nommez dans le livre.
Oui, alors... Mais c'est tellement bon. Pierre est quelqu'un qui est tellement extraordinaire quand il y a ce qu'on appelle un breaking news, quand il arrive une grosse nouvelle. T'sais, moi, c'est quelqu'un que j'adore sur le plan personnel, mais c'est un ami, mais sur le plan professionnel, il est extraordinaire. Pierre, quand il arrive s'il arrive un gros événement qui part dans l'actualité, personne ne lui téléphone. Là, Pierre, s'il entend ça, il s'en vient au bureau. Là, il est comme ça. Lui, Bernard de Rome était pareil. Hein, quand Lady Diana est morte,
oui.
On a appris le décès de Diana. Moi, j'étais dans le fond de la forêt. Je suis monté dans une tour de garde-feu pour trouver un téléphone satellite puis appeler de Rome pour lui dire d'aller au bureau. Quand je l'ai rejoint, il était déjà rendu.
Mm-hmm.
Bon, personne ne l'a appelé. Il apprend ça. Lui, bon, il s'en va travailler. C'est leur métier, c'est leur passion.
Oui.
Je pense que c'est des gens qui ont été heureux dans leur métier aussi.
Je pense aussi bien que oui. Avant de vous demander quel a été l'événement le plus marquant, la nouvelle la plus marquante de votre carrière, je vais vous demander, les va-et-vient entre Radio-Canada et TVA, est-ce que vous avez reçu des critiques de la part de vos collègues?
Non, pas vraiment. C'est-à-dire, il n'y a pas eu des gros va-et-vient. C'est-à-dire, j'étais à TVA.
Vous êtes parti à Radio-Canada?
À Radio-Canada. Puis là, je suis revenu à TVA.
Oui.
C'était totalement imprévu, mais je suis revenu à TVA dans un autre rôle.
Oui.
Dans le rôle de vice-président à l'exploitation, puis ensuite à la programmation.
Oui.
Puis ensuite, quand j'ai été nommé, c'est géré d'autres promotions, j'ai été nommé vice-président principal. Là, l'information retombait dans ma cour, mais à travers beaucoup d'autres choses.
Ouais.
Donc, j'étais comme le grand patron, si on veut.
Le puis, grand patron, oui.
Puis là, il est arrivé le 11 septembre, donc ça touchait toute la grille, puis ça touchait tout. Mais il y avait Réal Germain qui dirigeait l'information, qui était quelqu'un de très bon. Puis moi, j'étais comme son patron, mais j'étais son patron, en fait. Mais c'était... C'est ça, non, j'ai pas... J'ai lu... disons que mon patron de TVA, quand j'ai quitté pour Radio-Canada, il était pas nécessairement content, là. Mais, pour dire un euphémisme, là, mais bon, après ça, c'était quelqu'un que j'ai bien entendu, puis tout a été correct.
Oui. Nous, de l'extérieur, on les voit comme deux stations toujours en concurrence, quoi. Bon, pour terminer, là, je vais vous demander, quel est l'événement le plus marquant pour vous dans cette carrière-là? D'information.
Ben, en fait...
Je sais qu'il y en a eu plusieurs, mais au moins...
Les deux plus marquants en 2002, je dirais que pas mal pour moi, comme pour beaucoup de gens, puis il mérite la Palme d'Or, c'est le 11 septembre, parce que
oui.
Tout le monde se rappelle, ils étaient où le 11 septembre? Je suis sûr que tout le monde qui nous écoute, ils disent, oui, les gens se rappellent, j'étais à telle place.
C'est ça.
Puis tout le monde se rappelle de comment c'est un événement qui nous a tous secoués, parce que c'était un événement énorme. C'était énorme. Le monde a changé le 11 septembre.
Oui.
Et le monde s'est assombri le 11 septembre. Et malheureusement, on a l'impression qu'il continue de s'assombrir un peu, là. En fait, un peu beaucoup. Et c'est comme si le 11 septembre a mis fin. C'était le nouveau siècle, dans le fond, qui commençait réellement. Puis il ne commençait pas de la bonne façon. Tu sais, ça a été. Alors, dès le moment où c'est arrivé, on le savait. On se disait, hop, là, le monde change, il se passe quelque chose. Puis effectivement, c'était la guerre en Irak qui était évidemment le désastre qu'on connaît, puis en Afghanistan, bon, toute l'histoire. Alors, ça a bouleversé beaucoup de gens. Puis, je pense que c'est le plus grand événement qu'on a vécu. Puis ensuite, le référendum de 95 à l'échelle du Canada puis du Québec, parce que ça a vraiment divisé le Québec. Il y a eu un taux de participation de plus de 95%.
On voit
jamais. Là. Tout le monde a voté. Et ça finit par un cheveu. C'est 50 points des poussières, puis 49 points des poussières. T'sais. Donc, ça a été déchirant. Et moi, j'étais directeur, évidemment, des Nouvelles à Radio-Canada à l'époque. Et puis, on était surveillés, critiqués de façon... Les gens disaient, Bernard de Rome, j'ai la preuve qu'il est fédéraliste, puis d'autres disaient, j'ai la preuve qu'il est séparatiste, puis les gens nous accusaient.
Ça, c'est parce qu'il m'a fait sourire. Quand j'ai lu ça m'a fait sourire.
Mais c'est vraiment ça. Et puis, on se faisait vraiment accuser de tous les mots, mais donc, on avait des tas de comités qui nous vérifiaient tout bord, tout côté, ce qui était très bien. Puis, moi, je suis très, très fier du travail que Radio-Canada avait fait à cette époque-là. Puis, ça démontrait quand même comment une boîte comme Radio-Canada, même si elle est, elle est une création du gouvernement fédéral, comment elle est indépendante sur le plan journalistique. Et les gens qui nous critiquaient le plus étaient d'ailleurs le camp du non. Tu sais,
c'est clair. Ouais,
mais oui, mais oui, mais oui.
Merci bien beaucoup, sûr. Philippe Lapointe. Les aventures au pays des nouvelles télévisées aux éditions. Est-ce que vous serez au Salon du Livre?
Donc, je serai au Salon du Livre. Une chose que j'aimerais faire, je le dis à vos collègues de travail, là. Je sais qu'il y a des versions audio qui se font. Puis si vous en faites une, pensez à moi, j'aimerais ça participer à ça.
Je vais en parler à la direction.
Parce que je trouve ça important. C'est important, les versions audio. Puis bravo pour ce que vous faites. C'est un.
Merci beaucoup. Je vais en parler à la direction. Ouais. Allez, merci beaucoup pour ce livre-là. Et ceux qui ne l'ont pas encore, c'est déjà en librairie. C'est 2021, c'est tout nouveau. Hein. Aventure au pays des nouvelles télévisées, Philippe Lapointe, aux éditions Libre Expression. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Et puis bon, à bientôt. Hein.
Au revoir.
Au revoir. Merci à toi, Maurice. Et merci à Stéphane Bourdi qui est venu nous parler du parc de la Gatineau. Et merci à notre invité qui vient de finir l'émission avec nous, Philippe Lapointe, avec son livre « Aventure au pays des nouvelles télévisées, Libre Expression Édition ». Merci à toi, Maurice. Et puis bon, on se retrouve demain à la même heure du Canada. Et merci aussi à nos auditeurs auditrices pour leur fidélité. Et je vous dis ciao.